RCF. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine avait lieu en France et dans les collèges et les lycées la semaine de l'éducation aux médias dans les écoles. En effet, la question de l'éducation aux médias est aujourd'hui quelque chose de central, particulièrement dans une jeune génération qui ne reçoit l'information que par le biais de brèves que l'on peut trouver sur Instagram, TikTok et autres plateformes de réseaux sociaux. Avec ce risque avéré d'entrer dans la fake news, d'entrer dans la désinformation. Donc, il est primordial que des confrères, des consoeurs aillent dans les écoles parler du plus beau métier du monde qui est celui de journaliste. Au cœur même de cette réflexion se pose une autre question qui est celle de l'objectivité journalistique. En effet, comment se faire quand on est plus jeune sa propre opinion? Comment éviter d'accueillir des pensées toutes faites? Eh bien, certains vous diront que c'est le but des médias traditionnels que d'être objectif. Et pour ma part, je trouve qu'il est difficile d'être objectif. En effet, quand je travaille pour RCF, je ne vais pas avoir le même angle d'attaque que quand je vais travailler pour Radio France, pour RTL ou pour Europe 1. En effet, les lignes éditoriales sont différentes et donc mes angles d'attaque vont être différents. Je serai dans la ligne éditoriale objectif, mais est-ce que je serai honnête? En effet, trois radios, trois médias différents, je pourrais parfaitement avoir quatre angles d'attaque différents, quatre objectifs différents, donc je ne suis pas objectif. En revanche, et c'est ce que je dis à beaucoup de mes étudiants, l'honnêteté journalistique est au cœur de votre métier. Vous avez le devoir d'être honnête quand vous traitez une information, de ne pas reléguer une source sous prétexte que ce n'est pas notre parti politique, que ce ne sont pas nos valeurs. Car si on faisait cela, peut-être serait-on objectif vis-à-vis du média dans lequel on est, mais on ne serait pas honnête dans le traitement de l'information. Donc le cœur même aujourd'hui du défi journalistique n'est pas l'objectivité, mais l'honnêteté. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi 1er avril et je vous promets qu'il n'y aura pas de blague dans cette émission. D'ailleurs, je viens de le dire, nous serons totalement honnêtes avec vous. Une émission qui est consacrée aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui, depuis quelques semaines, un peu partout en France, tiennent leurs assises régionales. Et on a décidé d'évoquer une question que finalement, je crois, nous n'avons jamais évoqué sous cet angle-là, qui est la question de la fraternité. La fraternité en entreprise, est-ce une utopie? La fraternité, c'est aussi le troisième mot de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et j'ai presque envie de dire, qu'avons-nous fait de la fraternité? Voilà une question que l'on va évoquer dans le dossier de l'écho des solutions avec nos trois invités qui nous rejoindront d'ici quelques instants. 7 minutes pour changer le monde, je vous emmènerai en région nantaise. Vous vous souvenez, on est allé voir une ressourcerie culturelle il y a quelques temps. Et bien là, je vais vous emmener dans un entrepôt qui récupère les stocks inutilisés de parquets, de fenêtres, de bacs à douche pour les revendre, soit à des particuliers, soit à des artisans, je vais y arriver. C'est l'économie circulaire du monde du bâtiment et Antoine Morel sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Pierre Collignon, Maxime Dupont, comme d'habitude, seront présents avec leurs chroniques respectives. Mais comme chaque semaine, et vous en avez pris l'habitude depuis 6 ans maintenant, on ouvre avec l'invité écho de cette semaine. Il s'agit de Philippe Tixier, il est président régional des EDC en Bourgogne-Franche-Comté. Et avec lui, on fait un retour sur leurs assises régionales qui se sont tenues le 11 mars dernier. Eh bien c'est parti, c'est notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Philippe Tixier.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Et on retrouve notre invité écho, il s'agit de Philippe Tixier. Bonjour Philippe.
Bonjour Patrick.
Alors si aujourd'hui on vous reçoit dans l'écho des solutions, c'est parce que depuis quelques semaines déjà, depuis le début mars, se produisent un peu partout en France, on va le refaire, Très heureux de vous recevoir dans l'écho des solutions. Et si on vous reçoit cette semaine, c'est parce que depuis quelques semaines, à travers le territoire, ont lieu les assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Tous les deux ans, des assises nationales. On y était l'année dernière, à peu près à la même date. Et cette année, eh bien, ce sont les assises régionales qui ont eu lieu pour vous en Bourgogne-Franche-Comté, Philippe, le 11 mars dernier. Alors évidemment, à chaque assise, sa thématique. Dites-nous un petit peu quelles étaient les thématiques que vous avez voulu aborder avec les EDC dans la région Bourgogne-Franche-Comté durant vos assises.
Alors le thème retenu après discernement, réflexion, c'était le chrétien face à la prise de risque et moi, de quoi suis-je capable ? Voilà, l'idée c'était de poser un peu le constat, de dire que la société actuelle milite tantôt pour le principe de précaution avec l'objectif du risque zéro, et puis tantôt elle va favoriser des prises de risque un peu inconsidérées, bien souvent en raison pour des raisons qui touchent à l'appât du gain. Et donc, entre ces deux extrêmes, on voulait réfléchir un peu sur cette notion du risque.
Et on sait combien aujourd'hui le risque est important dans le monde de l'entreprise, parce que d'abord, aujourd'hui, on est dans une crise économique, énergétique, climatique, qui peut du jour au lendemain rebattre toutes les cartes. Et puis, en effet, le risque de la décision au quotidien.
Oui, c'est ça. On est dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et pour avancer, il faut se mettre en mouvement et il faut forcément prendre des risques, mais pas forcément des risques inconsidérés. Voilà. Donc, c'était un peu tout le sujet. Comment discerner la qualité du risque à prendre pour relever les défis du chef d'entreprise, du dirigeant aujourd'hui.
Alors, pour vous accompagner, il y avait trois figures. Il y avait un général de l'armée française, il y avait un navigateur, Sébastien Destremo, il y avait un chef d'entreprise, Bernard Streit, qu'on recevra d'ici quelques instants, justement, dans le dossier de l'écho des solutions. Trois figures, trois formes de risques différents. Si je comprends bien, le risque de l'entrepreneur, le risque du sportif, et puis le risque de risquer sa vie, le risque militaire.
Voilà, l'idée c'était de voir un petit peu dans des environnements différents comment cette question de la prise de risque pouvait résonner et ce qui a effectivement des clés de discernement communs à tous ces environnements. Et donc c'était passionnant. Le général nous a plutôt invité à réfléchir sur la question de la prise de risque pour soi en tant que militaire sur un théâtre d'opération, mais aussi la prise de risque qui embarque les autres. Voilà, et il nous a rendu attentifs à la question de l'objectif, et notamment sur un théâtre de guerre, nous rappeler que l'objectif c'est bien la mission et pas le risque zéro. C'est pas le zéro mort qui est l'objectif, mais bien la réussite de la mission. Alors en rappelant tout de suite effectivement de l'importance de prendre soin de ses hommes, mais il était de plus en plus questionné sur cette question du zéro mort qui devient un peu un incontournable aujourd'hui. Voilà, alors que voilà, il a remis un petit peu les choses en place avec
c'est ça, le risque nécessite toujours à un moment donné, et c'est toujours important de le dire, le monde n'est pas parfait et le zéro mort, le zéro pauvreté, le zéro tout ce qu'on veut est très difficilement atteignable. Zéro est l'infini d'ailleurs. Et en même temps, le monde de l'entreprise nécessite de temps en temps, à partir du moment où on prend des risques aussi, des sacrifices, des chutes. L'important, c'est celle de se relever.
Exactement, ça a été aussi la thématique plutôt de l'après-midi de nos assises, la question de la gestion de l'échec, notamment avec l'association 60 000 rebonds qui accompagne des chefs d'entreprise qui ont été contraints à la liquidation de leur entreprise, à comment les accompagner pour rebondir. Et du coup, du fait de cette expérience, de nous faire prendre conscience combien apprendre à perdre, finalement, c'est absolument essentiel pour aller de l'avant.
Alors, on sait bien que ces assises ont une vocation à la fois d'ouvrir des perspectives, de prendre un temps de pause, d'ailleurs, souvent dans des agendas chargés des chefs d'entreprise. Alors, je ne vais pas vous demander peut-être le bilan de chacun, mais vous, Philippe, vous repartez avec quoi de cette journée d'échange, de ces assises ? Est-ce que dans votre métier actuel, dans votre vie personnelle, il y a des choses qui ont fait tilt dans ces témoignages et qui vont vous permettre peut-être d'actionner d'ici quelques temps des leviers ?
Oui, alors on a précisément proposé à la fin de ces assises, au terme de la journée, une séquence plutôt d'introspection où chacun était invité, fort de tout ce qu'il avait entendu dans la journée, d'identifier quel était le défi personnel qui était à relever et du coup aussi quels pouvaient être les freins qui pouvaient empêcher la réalisation de ce défi, quelles étaient les peurs à dépasser. Moi effectivement personnellement ça m'a permis d'identifier
Est-ce que vous pouvez nous la témoigner ou pas? Est-ce que vous ou pas?
Oui, alors en l'occurrence, je dois organiser deux événements importants d'ici la fin de l'année, il y a une certaine appréhension, hein, puisque c'est des événements qui, ce sont des premières éditions, il y a un peu le risque évidemment de l'échec, que ça fonctionne pas, on n'a pas forcément d'historique, le reprendre en main de manière un peu plus objective la question de cette prise de risque, effectivement, est-ce que objectivement c'est grave si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que peut apporter cette expérience pour moi, pour le bien commun? Et finalement, le fait de traverser cette question permet de sortir plus fort et plus en confiance, parce que le but finalement, c'est effectivement d'appréhender le réel, d'appréhender les défis à relever avec plus de confiance en soi, en Dieu et dans les autres.
Et on sait bien que la prise de risque, en fait, au-delà de prendre des risques, c'est aussi un combat lié à la peur, hein. C'est aussi lever les contraintes que la peur peut nous faire générer pour justement aller plus loin. Merci beaucoup Philippe Tixier d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On souhaite longue vie aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens et à ceux de Bourgogne-Franche-Comté en particulier. On peut d'ailleurs aller frapper à votre porte, hein, si on entend cette rubrique. Où que vous soyez en France, il y a des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui sont prêts à vous accueillir dans leurs équipes. Et je pense que c'est à peu près le bon moment pour commencer à frapper pour l'année prochaine, Philippe.
Absolument. Déjà frapper pour venir découvrir avant de s'engager. C'est la fin d'année, effectivement, est tout à fait
propice à ça.
Disposé pour... absolument.
Et les assises aussi pour venir découvrir. Merci beaucoup, Philippe Tixier.
Merci, Patrick. Bonne journée.
Merci beaucoup. Nous, on continue tout de suite avec, toujours dans la même veine, avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs
pour
et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors que les assises régionales se déroulent un petit peu partout en France pendant le mois de mars et avril, c'est d'un autre événement dont vous voulez nous parler ce matin en nous invitant à la conversion. Et de quelle conversion s'agit-il exactement, Pierre ?
Avant de vous répondre, je veux vous dire que j'ai la chance extraordinaire au sein du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens d'être membre du bureau national. Ces bureaux nationaux sont des moments importants puisqu'ils permettent de mieux se connaître, évidemment, de réfléchir ensemble à l'avenir du mouvement, mais aussi de se laisser enseigner. C'est cette expérience-là que je voudrais aborder avec vos auditeurs, car notre dernier bureau national a été d'une très grande richesse pour moi.
Alors, quel était le thème de ce bureau, Pierre ?
Nous avons travaillé sur la conversion écologique, thème banal, mille fois abordé dans mille autres réunions, et qui, sur le papier, n'avait pas vraiment quelque chose de très attirant. Et pourtant, j'ai été particulièrement touché par cette 1001e réunion sur ce sujet.
Qu'en avez-vous retenu et pourquoi vous a-t-elle autant touché, Pierre ?
Principalement, ce qui m'a touché, c'est le propos final du père Étienne Grenet, vous savez, qui a publié en 2021 un livre qui s'appelle « Le Christ vert », qui nous conduit à discerner comment les désordres environnementaux sont les reflets, les effets de nos propres désordres intérieurs.
Que veux-tu dire exactement, Pierre, même si j'ai un peu ma petite idée derrière ?
Ce qui est frappant, c'est la difficulté que nous avons sur ce sujet de l'écologie à poser un regard lucide sur nos résistances au changement, ainsi que sur l'avancement même de la crise environnementale. Chacun d'entre nous peut le reconnaître. Nous voyons bien que cela ne tourne pas très rond sur notre planète, et pourtant, nous pouvons avoir tendance à détourner le regard.
Alors c'est une transformation personnelle à laquelle nous sommes appelés, c'est ça ce que vous voulez dire ?
Effectivement, notre capacité à agir passe nécessairement par une introspection personnelle pour comprendre où s'enracine en nous cette inertie. Plusieurs constats. Le premier, c'est que la blessure de notre intelligence fait que nous ne percevons pas les choses et que si je ne vois pas les conséquences de toutes ces choses, je n'ai pas les capacités d'agir et encore moins la volonté de faire. Le deuxième constat, c'est une forme de fatalisme, car même si je perçois les choses, je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Tout le monde connaît cette célèbre phrase de Bernanos qui dit, vous savez, le démon de mon cœur s'appelle « à quoi bon ?» C'est cette forme de tentation qui nous conduit trop souvent, je crois, à justifier notre inaction.
Oui, le fameux « à quoi boniste ». Et on peut aussi avoir tendance à espérer dans les prouesses technologiques pour résoudre les difficultés environnementales aussi.
C'est vrai, mais c'est aussi un piège, je crois. La technologie n'est pas la seule réponse à la question. Et nous savons tous que nombre de nos écosystèmes sont déjà atteints de manière irrémédiable et qu'il faut s'attendre demain à vivre dans un cosmos blessé, moins hospitalier et surtout moins riant que celui d'hier. On ne peut pas tout baser sur le progrès, ce serait trop facile. En fait, nous souffrons d'une sorte de maladie de l'âme, comme le dit le père Grenet, qui ne peut pas se soigner sans une profonde conversion personnelle qui nous permettra de nous reconnecter au vivant et d'imaginer un futur à espérer. Alors je crois que pour un chef d'entreprise, les responsabilités sont encore plus grandes et c'est pourquoi j'invite chacun d'entre nous, au moment où se prépare la semaine sainte, à faire ce petit travail d'introspection et de conversion.
Merci beaucoup Pierre. Nous allons continuer avec une pause musicale et puis nous allons ensuite retrouver nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Pierre, ce sera le samedi saint la semaine prochaine. On évoquera la question de l'économie monastique. Allez, on part en musique avec tous nos invités. À bientôt Pierre, au revoir.
À bientôt.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles qu'écoutaient.
C'était Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs sur RCF. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On va parler d'un autre pouvoir, non pas le 7e, ni le 5e, ni le 4e, mais celui du pouvoir de la fraternité avec tous nos invités du dossier de l'écho.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Et il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions avec nos trois invités. Nous allons évoquer la place ou la question de la fraternité dans le monde de l'entreprise avec cette question qu'on peut se poser. Vive la fraternité dans le monde de l'entreprise, dans le business. Est-ce que c'est quelque chose d'utopique ou pas? C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités qui sont avec nous autour de la table numérique puisque nous sommes en distanciel comme on aime dire aujourd'hui. Trois invités que je vous présente rapidement. Alors je vous rassure, il n'y a ni sociologue, ni psychologue, ni d'expert coach en management, mais juste des acteurs de terrain. Tout d'abord, avec vous, Joséphine Labroux, vous êtes directrice générale adjointe des entreprises S'engage. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
À côté de vous, ou pas très loin en tout cas, par les biais du numérique, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Streit. Vous êtes ex-dirigeant de la société Delphigen, aujourd'hui à la tête d'une association qui s'appelle Action Philippe Streit, une association qui a été voulue par votre frère Philippe à sa mort pour venir s'occuper des personnes qu'il disait comme lui. On verra avec vous comment cette mission peut être source de fraternité, mais aussi comment elle peut être source de déploiement économique sur le territoire dans lequel vous vivez, qui est le Doubs, et je vous salue. Bonjour Bernard.
Bonjour à tous.
Et puis, pas très loin de vous, toujours par les biais du numérique, eh bien Nicolas Duswitch, vous êtes le directeur d'une association qui s'appelle les Utopreneurs. Les Utopreneurs, une association qui a pour vocation de venir essaimer, alors c'est une autre manière aussi de créer des liens de fraternité peut-être, d'essaimer des solutions sur le territoire et d'aider des porteurs de projets à développer leur idée. idée au plus grand dénominateur commun. Voilà, je vais y arriver. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Patrick.
Et on va commencer directement avec vous, Bernard, si vous le voulez bien, parce que vous êtes à la fois un ancien dirigeant d'entreprise familiale, une entreprise familiale que vous avez cédée à votre fils, aujourd'hui président d'une association pour porter les volontés, les dernières volontés de votre frère. Avant de parler de fraternité, puisque c'est un peu le sujet du jour, on va parler un peu d'utopie, puisque c'est le deuxième finalement sous-sujet du jour. Pour être président d'association, lancer une association et dirigeant d'une entreprise familiale, est-ce qu'il faut être utopiste, Bernard ?
Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut être réaliste, mais surtout avoir le souci du bien commun. Si on veut faire reculer la misère, il faut créer de la richesse. Si on veut créer de la richesse, il faut être réaliste. Et si on veut être réaliste, et si on veut réussir, il faut être bienveillant.
Alors, pour vous, l'utopie, Joséphine, vous côtoyez un certain nombre d'entreprises, alors pas directement ou pas toujours directement dans votre quotidien, mais en tout cas, l'écosystème des entreprises s'engage. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des utopistes, ces entreprises qui s'engagent ? Ou est-ce que, comme Bernard, pour vous, c'est plutôt des réalistes ?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. En effet, on voit beaucoup d'entreprises tous les jours et on voit beaucoup d'entreprises très différentes les unes des autres aussi tous les jours. Et parfois, ça va être l'utopie d'un dirigeant, de la figure du dirigeant d'entreprise qui va en effet pouvoir porter notamment le sujet d'engagement et infuser à tous les niveaux de l'entreprise. Mais sans doute que, en tout cas, de la fenêtre d'observation dans laquelle nous sommes, du point de vue de l'engagement des entreprises, sans doute que les entreprises qui arrivent le plus sont celles qui arrivent à combiner avec un bon point d'équilibre l'utopie et le réalisme dans la poursuite de leur activité et dans la poursuite de leur mission.
Nicolas, l'utopisme dans l'entreprise est le nom quasiment de votre structure, hein, les utopreneurs. Et justement, très souvent, d'après ce que j'ai pu constater, ce sont des utopistes qui ont réussi, donc qui sont passés de l'utopie à la réalité. Mais vous accompagnez, si j'ai bien compris, aux utopreneurs, vous accompagnez pour cette utopie SM sur l'ensemble du territoire, c'est ça ?
Oui, on est vraiment dans l'idée du changement d'échelle collaboratif des entreprises d'insertion et des entreprises adaptées aux personnes en situation de handicap. Et donc, on part d'un utopiste qui a réussi quelque chose de particulier sur son territoire. On se met à son service et on aide d'autres entrepreneurs un peu partout en France à développer la même chose avec des outils qu'on met progressivement à leur disposition. Mmh. C'est ça l'idée.
Alors, si on aborde cette question de la fraternité dans l'entreprise, pourquoi l'angle de la fraternité ? Parce que finalement, c'est un des trois mots de notre devise républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité, et que finalement, on l'utilise assez peu. En tout cas, il est très peu utilisé comme vecteur de citoyenneté. On évoque souvent la liberté, l'égalité, assez peu la fraternité. Pour vous, Bernard Streit, la fraternité dans l'entreprise, elle prend quelle forme ? Vous qui avez en plus ces deux casquettes d'avoir été un dirigeant d'entreprise et aujourd'hui d'être un dirigeant associatif.
Alors, simplement, peut-être dans les valeurs de notre République, si vous voulez, il y a une chose qui était assez impressionnante, c'est ce changement avec la Révolution qui a permis que les classes sociales ne se fassent pas à la naissance. Donc, elle a décidé que ce serait l'égalité entre chaque individu qui naît libre et égaux. Et puis, pour moi, ma perception de chrétien, c'est que la fraternité, les révolutionnaires n'étaient quand même pas complètement fous, c'était principalement l'essence de notre religion chrétienne. Et donc, dans cet esprit-là, ils se sont dit, c'est fantastique d'arriver à l'égalité, et on s'en réjouit, à la liberté de chaque individu qui naît sur cette planète, mais il ne faut quand même pas perdre cette fraternité qui était l'essence de notre religion. Et je pense qu'intelligemment, ils l'ont mis dans les valeurs de la République, mais c'est une valeur plutôt judéo-chrétienne.
Et alors comment justement elle prend corps, vous par exemple, dans le monde de l'entreprise, finalement dès le départ de l'entreprise familiale, la notion de fraternité a été très forte, puisque je crois que vos parents ont accueilli des personnes en situation de handicap dès le départ, dès la création de l'entreprise, et c'est devenu, vous avez le sentiment que cette notion de fraternité est devenue une culture d'entreprise ?
Oui, alors j'ai participé à du débat des rassemblements de patrons chrétiens. On m'a demandé de témoigner. C'est toute la difficulté d'être un chef d'entreprise, d'avoir à la fois à veiller à la bienveillance avec chacun, le respecter dans ses différences, d'avoir ce souci de l'autre en permanence, et savoir le faire grandir, savoir le récompenser, le remercier, d'essayer de créer les meilleures conditions pour fonctionner. Et puis, il y a la réalité économique qui est celle de la performance qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez être écrasé par la concurrence. Et donc, il faut faire preuve d'exigence. Et c'est de la même façon qu'ici, on vient de créer sur le site d'Anteuil avec l'association, on vient de créer 90 emplois en l'espace de 3 ans. On fait encore des travaux pour pouvoir monter à 240 emplois avec 75% de personnes handicapées. Et si vous voulez, pour moi, l'exigence, c'est la forme la plus aboutie de la bienveillance.
Mmh. Alors pour vous, cette exigence, c'est le moyen de faire cohabiter à la fois la nécessité économique de faire des gains, du profit, et en même temps de faire vivre le lien fraternel dans l'entreprise, dans le management, à tous les niveaux.
Alors oui, parce que sans résultat économique, vous n'avez pas de pérennité. Si vous voulez, le résultat économique, indiscutable, il faut en faire. Mmh. Après, on peut discuter de la façon dont on le répartit. Mmh. Et ça, si vous avez pas si vous ne le répartissez pas d'une façon éthique, correcte, vous ne créez pas une fraternité. Vous créez un clan qui s'accapare des résultats et qui le garde pour soi. Mmh. Donc, il y a la notion de partage qui est très importante dans la notion de fraternité et de reconnaître aussi dans chaque individu un être sacré.
Joséphine Labrou, est-ce qu'on peut évoquer cette notion de fraternité aux entreprises s'engagent ? Comment elle s'enracine dans votre dynamique ?
Du point de vue des entreprises, pour moi, la notion de fraternité m'évoque 3 choses. C'est d'une part l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur l'autre, le respect de l'autre et d'une certaine manière l'empathie. Et l'empathie, on la voit souvent comme une qualité, mais c'est aussi une compétence qui peut s'acquérir, qui peut se muscler, qui permet de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et beaucoup d'entreprises ont compris, à mon sens, la différence que ces valeurs, ces actions pouvaient avoir pour la vie de l'entreprise. L'action d'une entreprise, dans le sens de la fraternité, elle peut se faire à deux niveaux qui sont, à mon sens, interconnectés. C'est d'une part l'application de cette valeur de fraternité au sein de l'entreprise, et comme le disait Bernard, par une nouvelle manière de considérer les collaborateurs et les équipes, par une nouvelle manière de recruter, et parfois différemment, en travaillant son employeurabilité, plutôt que travailler l'employabilité des collaborateurs qu'on souhaite recruter. Mais l'entreprise l'envisage aussi de plus en plus en externe, en considérant donc l'entreprise comme une partie prenante de la société et en essayant d'équilibrer les externalités positives ou négatives dans la manière dont elle mène son activité économique et donc de plus en plus, et là on peut penser aussi aux entreprises à mission, son activité sociale, sociétale ou environnementale.
Et alors comment justement aux entreprises s'engagent, vous essayez de faire vivre cette dynamique de fraternité, parce que j'ai cru voir qu'il y avait par département des clubs, il y a des gens qui se retrouvent. Comment aujourd'hui on fait vivre cette dynamique de fraternité entrepreneuriale pour faire croître justement les deux leviers dont vous venez de nous parler ?
Oui, vous avez raison. En fait, ça fait écho aussi à la manière dont notre action se déploie au sein de notre communauté. Les entreprises s'engagent, vous l'avez dit. On a un club par département. Donc, ces clubs, on les voit au-delà du nom club, qui est peut-être un faux ami, mais avant tout comme des collectifs. On croit beaucoup en la force du collectif pour pouvoir avancer. Donc, ce qu'on va proposer aux entreprises, c'est de pouvoir se rassembler, de rencontrer d'autres entreprises qui leur ressemblent ou qui leur ressemblent moins, mais de leur territoire et qui ont décidé de se rassembler pour développer leurs actions d'engagement, donc à la fois pour dialoguer, pour passer à l'action et pour progresser ensemble sur l'engagement des entreprises. Donc ça, c'est un petit peu l'action globale qu'on met en place par le biais du collectif dans tous les territoires. Et il y a un autre champ d'action que nous activons, c'est par des programmes d'engagement que nous déployons au niveau national. Et il y en a certains qui font vraiment écho à cette notion de fraternité. Et je pense notamment au sujet du mentorat. On a lancé il y a plus d'un an le plan Un jeune, un mentor.
Absolument, on en avait parlé. On en a parlé d'ailleurs dernièrement dans l'écho des solutions du mentorat, qui se déploie aujourd'hui sur les territoires au travers des clubs, c'est ça?
Oui, au travers des clubs et aussi au niveau national, grâce à cette grande coalition Un jeune, un mentor. Là, vous aviez dû l'évoquer, en effet, c'est plus de 100 000 jeunes qui ont été accompagnés en 2022. Et à mon sens, cette action-là, pour un dirigeant d'entreprise ou pour un collaborateur, et surtout pour une entreprise, de permettre à ses collaborateurs de donner de leur temps bénévolement pour accompagner un jeune à trouver sa voie, c'est pour moi un beau symbole de fraternité que nous continuons à déployer un peu partout en France.
Nicolas Duswitch, Joséphine vient de dire à l'instant l'importance du collectif. Vous, dans le déploiement des propositions que vous faites, le collectif est impératif, non?
Chez Utopreneur, clairement, le collectif est l'aspect le plus important qu'on va essayer de développer. Et en fait, on va vivre la fraternité comme une solidarité entre personnes qui partagent des valeurs et qui s'engagent pour un même objectif, et en l'occurrence un objectif social qui est dans l'idée que personne n'est inutile, personne n'est superflu, nul n'est inemployable, on dit parfois, Thibaut Guilluy dit ça souvent, et finalement le but de ces entreprises, ça va être de trouver le moyen de s'ajuster aux plus fragiles pour mener des projets économiques qui vont vraiment passer à l'échelle et permettre de trouver des solutions réelles à ces problématiques de l'inclusion. Oui. Et effectivement, ce faisant, on a avec Utopreneur, une couche supplémentaire de fraternité, de coopération, parce que ces entreprises adaptées, ces entreprises d'insertion, elles choisissent concrètement de partager des savoir-faire, de partager des moyens matériels, de mettre à disposition leurs propres ressources internes pour construire ensemble des filières qui soient à la fois productives et sociales.
Bernard Streit, on vient de parler de la question du collectif. Vous en êtes vous êtes au cœur de cette question du collectif, parce que à la fois vous œuvrez pour le handicap, donc vous avez une réponse sociale à des problématiques d'ordre de transport, de logement, de restauration, de culture. En même temps, vous vous enracinez dans un territoire rural, donc qui nécessite aussi de travailler avec les politiques territoriales, mais aussi les hommes et les femmes politiques de votre territoire, et en même temps pour dégager aussi de la création d'emplois, donc du développement économique. Donc vous êtes vraiment, vous, au cœur de ce que certains de mes invités appellent l'ODD 17, c'est-à-dire ce lien partenarial avec toutes les parties prenantes.
Alors, c'est vrai que, si vous voulez, on a, pour revitaliser, on a cherché à créer des emplois pour les personnes en situation de handicap en milieu rural. Donc, effectivement, le logement, le transport, la possibilité de se restaurer sur place, mais un gros investissement pour qu'ils puissent finir leur rééducation, avoir médecin, kiné, etc., tout dans le même logement, le même bâtiment de 5000 m². Mais en même temps, les gens de ce milieu rural peuvent venir se faire soigner, peuvent venir faire du sport, peuvent venir déjeuner au restaurant. Et donc, alors le lien avec le monde politique, si vous voulez, on a d'abord commencé par faire 60 emplois, on a tout construit sur des dons jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
Ce que vous voulez me dire, c'est qu'en gros, c'est que vous avez commencé par créer de l'emploi, et quand il y a eu de l'emploi et un développement économique, les politiques se sont un peu intéressés à ce que vous faisiez ?
On est allé les voir à ce moment-là, en leur disant, écoutez, on vient de créer 60 emplois avec cette démarche, on a un objectif d'aller à 240 emplois, et on a fait un petit tour avec le chapeau, et la commune a donné un peu d'argent, 10 000 euros, la Comcom a donné 20 000 euros, et la région surtout et le département se sont engagés à nous aider. Mmh. Et donc là, on a, sur un investissement qui est de plus de 10 millions d'euros, qui a ce côté assez original, on a pu financer déjà à peu près 6 millions de travaux. Mmh. Mais aujourd'hui, on essaye de passer le chapeau au niveau de la nation. Alors là, toutes les portes sont fermées. Hein.
Bah non, c'est là où Joséphine et Nicolas peuvent agir. Nicolas, parce que vous avez la compétence du scalable, et Joséphine, parce que vous avez la compétence du terrain, non, Nicolas?
Oui, tout à fait, avec plaisir.
Oui, bah, j'aurais grand plaisir à vous retrouver, à vous rencontrer, parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais. Il y a une cassure, donc on a pris une société de communication et d'influence pour pouvoir rencontrer les ministères. Mmh. Aujourd'hui, j'ai déjà rencontré 5-6 ministères. Chaque fois, des jeunes gens brillants qui sont là, mais qui vous disent, bon, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour vous, parce qu'on peut, comme vous faites la rééducation, vous avez des kinés, vous avez du sport, vous créez des emplois, vous avez des transports, etc. On ne sait pas dans quel cas vous mettre. Donc,
c'est ça. On l'entend bien, Bernard, la problématique, c'est toujours une problématique de case hein, dans la démarche administrative. Est-ce que vous avez, vous aussi, ce lien, Joséphine, aux entreprises s'engagent pour faire le lien entre votre président qui est haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et le terrain et les problématiques que Bernard peut rencontrer ?
Oui, bah, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles ce groupement d'intérêt public a été créé en avril dernier. C'est justement de pouvoir rassembler au sein d'une communauté, d'un collectif commun, des acteurs qui parfois ne se parlent pas assez ou ne parlent pas le même langage. Et en l'occurrence, l'État et les entreprises, c'est pour ça que, en effet, nous avons une gouvernance qui est publique-privée. On est une sorte, et Thibaut Guay, lui, aimerait apprécier la référence, on est une sorte de joint venture entre l'État et les entreprises pour justement leur permettre de mieux se comprendre et de mieux se parler. Donc ça, on le fait à la fois au niveau national pour la mise en place de programmes nationaux qui soient de plus en plus adaptés à l'entreprise sur les sujets d'emploi, de handicap, d'inclusion, de qualité de vie au travail, de diversité, de sobriété énergétique, mais aussi au niveau des territoires. Donc dans les clubs, dans ces collectifs, ce sont à la fois les opérateurs publics et les entreprises, mais aussi les acteurs du monde associatif, de la société civile et de l'inclusion, qui peuvent se parler pour essayer progressivement, on va pas réussir tout de suite, mais en tout cas donner les bonnes conditions de dialogue, mais surtout permettre à ces acteurs de trouver des solutions concrètes sur le terrain pour faciliter l'émergence de projets aussi riches que celui qu'évoque Bernard.
Alors justement, Nicolas Duswitch, comment se passe-vous dans le territoire, dans l'SMA, justement, cette collaboration entre le tissu économique? Vous arrivez avec des solutions qui sont émergentes aussi, qui ne sont pas forcément toujours, elles le deviennent de plus en plus, bankable. Et comment à la fois on va convaincre le territoire, comment on va convaincre les politiques, on va convaincre le tissu économique ou des entrepreneurs de se lancer dans une démarche du type que vous accompagnez?
Oui, c'est une bonne question. La première réponse, c'est que c'est pas nous qui allons mener ça sur le territoire, c'est vraiment l'entreprise d'insertion ou l'entreprise adaptée du territoire qui quelque part apporte dans l'histoire ce qu'elle a su créer sur le temps long, en fait, des liens en particulier pour l'inclusion dans l'emploi. Ça s'invente pas du jour au lendemain. Il y a un vrai travail à faire avec le milieu associatif, effectivement, les collectivités, les représentants de l'État. Et quelque part, nous, ce qu'on vient apporter, c'est un projet avec son modèle économique qui doit s'adapter aussi d'un point de vue économique à la réalité du territoire, mais qui quand même a été testé et fonctionne, et pour lequel on a un modèle matériel qui est prêt à la fois pour aller convaincre les parties prenantes du projet du territoire, pour aller chercher les financements s'il y a besoin, et pour démarrer une activité concrète avec des équipes en insertion ou dans un milieu adapté.
Quels sont, on arrive presque à la fin de cet échange, mais quels sont pour vous, Joséphine, Bernard, Nicolas, les leviers pour mettre plus de fraternité, alors j'ai envie de dire dans notre société et dans le monde de l'entreprise, bref, en gros, dans les rouages d'une société qui est un peu morcelée, hein, comme le dit très bien Jérôme Fourquet dans son livre L'archipel français, on a une France qui est morcelée. Les Gilets jaunes nous ont montré un petit peu qu'on pouvait retrouver des phases de fraternité sur des ronds-points. Quels sont pour vous les leviers à actionner pour arriver à plus de fraternité et peut-être plus de déploiement de solutions inclusives? Nicolas, Joséphine, Bernard, qui veut répondre?
J'ai déjà une réponse, moi.
Nicolas, alors allez-y.
N'hésitez pas à vous appuyer sur les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées de vos territoires, pas forcément pour leur faire du chiffre d'affaires, acheter des paniers repas ou je ne sais quoi, mais aussi dans votre politique de recrutement. Il y a moyen de mettre en place des logiques de long terme où on va former des personnes pour répondre à des besoins qui parfois sont complexes, parce qu'on entend tout le temps des chefs d'entreprise qui disent « Ah, je peux pas recruter je sais pas quel type de personnes, etc. » Eh ben, prenons le temps de faire les choses. Peut-être que ces personnes sont pas là à attendre au pied de la porte ou de l'autre côté de la rue, je ne sais pas trop quoi, et certainement, il y a beaucoup plus de travail à faire que ça, mais faisons-le ensemble, et les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées sont là pour vous aider sur ce genre de démarche.
Joséphine, pour vous, ce serait quoi le ou les leviers à actionner pour mettre un peu plus de liens dans une société qui parfois en manque un petit peu?
Peut-être que je vais répondre du point de vue de l'entreprise et comment mettre davantage de fraternité, on va dire, dans les pratiques des entreprises. Nous, on a souvent le réflexe de dire que l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. Ce que ça veut dire, c'est que, et ça répond à la question du levier, c'est que le fait de ne plus opposer fraternité et performance, ça rejoint ce que Bernard disait aussi tout à l'heure sur la performance économique des entreprises et notre tout premier point sur le lien entre utopie et réalisme. Nous, ce qu'on essaye de prôner, c'est que l'engagement social, sociétal, environnemental et la fraternité, évidemment, rentrent dedans. C'est un gage de performance à long terme pour les entreprises. Donc, c'est pour ça que la communauté Les Entreprises S'Engagent existe. C'est pour accompagner et valoriser ces entreprises qui veulent s'engager et qui ont envie de participer à la conception d'une société qui soit plus durable, qui soit plus résiliente, qui soit plus solidaire et donc incidemment qui soit plus solide et plus résistante à certaines crises qui malheureusement peuvent arriver.
Exactement, nombreuses crises qu'on a aujourd'hui, énergétiques, climatiques, sociales. Bref, je crois qu'on les a toutes. Je crois qu'on n'a jamais eu toutes les crises en même temps. Mais là, on a un combo qui marche plutôt bien. Et Bernard Streit, le mot de la fin, il sera pour vous. C'est quoi, vous, le levier à actionner pour plus une société plus unie, plus fraternelle?
Il faut agir sur les chefs d'entreprise. Et vous savez, je pense que le chef d'entreprise ne doit pas s'enfermer. J'avais été invité par Nicolas Dufourcq au BIG. Et j'avais dit à tous ceux qui étaient là, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai eu une chance terrible parce que j'étais un fils de paysan et mon père m'a donné une petite casquette et m'a dit, tu l'essaieras tous les soirs pour voir si elle te va encore. Et donc, si vous voulez, quand les chefs d'entreprise ont la tête qui enfle, ont des veaux d'or un peu partout, ils sont pas raisonnables. Je vais vous dire un témoignage rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux. Pendant les gilets jaunes que vous évoquiez, je me suis trouvé, parce que quand vous avez créé un groupe de 4000 personnes, d'une main ferme, parce qu'il fallait le faire, tout en étant bienveillant, je me suis trouvé arrêté à un rond-point où il y avait à peu près 150 gilets jaunes. Les premiers qui m'ont arrêté étaient un peu durs, j'ai descendu de la voiture, les gens m'ont reconnu, et ils m'ont fait un accueil, je vous dis, j'en pleure encore. C'était extraordinaire. Les gens vous aiment, les patrons, si vous êtes raisonnable, si vous êtes, ils aiment, ils savent que vous avez besoin d'être exigeant, ils savent que vous avez une concurrence internationale terrible. Mais si vous les aimez vraiment, ils le reconnaissent, ils le voient dans vos yeux, ils le voient dans vos gestes de tous les jours. Et quand vous avez 150 personnes excitées qui vous disent, bravo, ce que tu fais, c'est génial. Et j'ai remonté dans ma voiture, les gens sont serrés, ils disent, laissez-le passer. C'est un patron qui soutient le peuple. Voilà ce que c'est. Je dis pas ça pour moi, mais enfin, vous avez des gens qui arrivent pas à recruter. J'étais invité chez le préfet il y a quelques temps avec des chefs d'entreprise qui disent on peut pas recruter. Et quand il m'a laissé la parole, j'ai dit mais écoutez, moi, il y en a quelques-uns qui sont autour de cette table-là. J'irai jamais travailler chez eux. C'est la première fois que j'entends ça. J'ai dit moi, je suis là pour dire la vérité. Ils ont une réputation déplorable et ils disent c'est pas normal, le gouvernement, les machins, fait rien pour que je puisse embaucher. Mais tout le monde sait qu'ils ont un comportement infernal. Ouais. Voilà, il faut changer. Alors, c'est pas facile, mais si vous voulez, je témoigne humblement de ça dans mon milieu rural, parce que j'habiterai Paris ou Lyon,
vous auriez un autre regard.
Inconnu, personne ne me connaîtrait, mais en milieu rural, vous pointez dans 40-50 km à la ronde, on vous connaît. Et pourtant, j'ai licencié des gens, et pourtant, j'ai dû faire des affaires. Mais ils savent, ils comprennent ils ont besoin d'un patron qui leur garantisse la pérennité de leur emploi et qui soit humain. Voilà ce que c'est le problème. Merci. Aujourd'hui, on a l'appât du gain, pourquoi faire? Les linceuls n'ont pas de poche, on s'en va, on n'a plus de sous.
Merci beaucoup Bernard Streit, merci beaucoup Nicolas. Je souris parce que vous nous donnez une leçon à la fois d'humilité, une leçon de fraternité, et on voit bien, et vous répondez presque de manière avec tout votre cœur à cette question, la place de la fraternité dans l'entreprise est-elle utopiste? Elle ne l'est pas quand on aime. Merci beaucoup Joséphine, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Bernard d'avoir été nos invités du dossier de l'écho des solutions. On continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique Un Max Déco, et on se retrouvera à la fin de cette émission pour nos 7 minutes pour changer le monde avec Antoine Morel pour évoquer justement une entreprise vertueuse qui permet de revendre, restocker, remettre sur le marché des surplus de l'industrie du bâtiment. Voilà, ce sera nos 7 minutes pour changer le monde. Merci à tous les trois. On continue avec Maxime Dupont.
Maxime Dupont.
Et après la fraternité, on va parler de vacances avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, donc vous êtes déjà en vacances dans votre tête, hein ?
Oui, mais à peu près comme vous, je pense. Nous sommes en avril. C'est bientôt les longs week-ends de mai en cette année extraordinaire où il ne vous aura pas échappé qu'entre le 30 avril et le 29 mai, nous aurons 4 week-ends de 3 jours et plus. Et puisque c'est déjà le moment de préparer les vacances d'été également, zoom aujourd'hui sur les principales destinations touristiques mondiales.
Alors, on commence avec quoi, Maxime ?
Et avec l'incontournable, l'indétrônable destination numéro 1 au monde qui est...
La France, peut-être ?
Bah, la France, bien sûr. La France championne du monde toute catégorie depuis des années, ainsi que le montre un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme qui vient de publier un classement dynamique des pays les plus visités depuis 1995. La France en tête sans discontinuer et qui a connu avant le Covid un pic avec plus de 90 millions de visiteurs par an. Rendez-vous compte, cela a fait un bon nombre de bérets vendus.
Alors qu'est-ce que nous apprend ce rapport, mon cher Maxime ?
Eh bien, au-delà de la première place de l'équipe de France, de la France, on retrouve en année post-pandémie des destinations très majoritairement européennes avec derrière la France, l'Espagne, puis la Turquie, l'Italie, les États-Unis, l'Autriche, l'Allemagne, la Croatie et la Hongrie, 9 destinations européennes parmi les 10 premières destinations touristiques du monde. Et cela est évidemment dû en partie à la dégringolade de la Chine et de la Thaïlande qui sont sortis de ce classement au fil des politiques zéro Covid des uns et des règles de confinement des autres.
Alors, et si l'on en revient un peu en arrière, hein, si on revient un peu en arrière, Maxime, au début de cette étude, qu'est-ce que l'on apprend ?
Eh bien, cette étude débute en 1995 et à l'époque, il était dans le classement des pays qui vont progressivement mais sûrement disparaître et s'effacer de la carte des destinations les plus prisées. Le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique et sans doute le plus étonnant, la Pologne, qui faisait partie des 10 pays les plus visités il y a 30 ans.
Alors, que penser de ce classement exactement, Maxime ?
Eh bien, pour moi, c'est d'abord un rappel de la manne financière exceptionnelle que représente le tourisme pour notre pays et donc une alerte quand on pense à tous ces emplois dans les métiers de service, restauration, hôtellerie, animation d'événements, etc., qui ne sont pas pourvus en ce moment. C'est aussi un focus sympathique qui est globalement mis sur le pouvoir d'attraction de l'Europe et en des moments de turbulences géopolitiques telles que nous les connaissons aujourd'hui, c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, cela m'a fait penser à cette blague qui raconte que lors de la création du monde, Dieu et ses ouvriers s'étaient mis d'accord pour respecter une forme d'équité entre les différents territoires. Mais à un moment, Dieu s'est lâché pour créer un pays rempli de régions aussi différentes que belles, de terroirs riches, porteurs d'une gastronomie supérieure et d'un climat tempéré, permettant aux œuvres intellectuelles, culturelles et artistiques de s'épanouir. La France, bien sûr. Puis quand ses ouvriers lui ont rappelé le fameux principe d'équité, Dieu les a rassurés. Oui, d'accord, la France est fantastique, mais ne vous en faites pas. Pour équilibrer, je vais créer les Français.
Merci, Maxime. La France, son béret, sa baguette et ses fromages qui puent, comme on dit. Merci beaucoup. Rappelez en effet que nous sommes dans la semaine, justement, du tourisme qui est promulguée chaque année à cette période pour relancer à la fois les destinations, mais comme vous l'avez si bien dit aussi, pour relancer l'attractivité des métiers touristiques qui ont bien besoin pour accueillir 90 millions d'étrangers sur son territoire, et ça ne va pas s'arranger puisqu'on a une Coupe du Monde et des JO Olympiques qui arrivent très prochainement. Merci beaucoup Maxime, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on continue tout de suite avec Antoine Morel, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et on va parler, rien à voir, on va parler circularité dans les métiers du bâtiment. Vous allez découvrir ça d'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde. À bientôt Maxime, au revoir.
Au revoir.
7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
Voilà, et puis pour nos 7 minutes pour changer le monde, nous avons délocalisé les studios chez Articonnex, une entreprise qui se situe au nord de Nantes. Je suis avec Emmanuel Morel, qui est l'un de ses cofondateurs. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors si vous êtes avec nous dans cette émission consacrée aux assises régionales des EDC, c'est parce que vous avez été le prix Philibert Vraud du jeune entrepreneur en 2019. Je dois avouer qu'on vous avait peut-être un peu zappé à l'époque, mais on est en train de se racheter aujourd'hui. Articonnex, c'est une entreprise qui a été créée pour le monde du bâtiment, parce que, et vous allez nous expliquer ça plus en détail, parce qu'aujourd'hui, on ne se doute pas qu'une grosse partie, par exemple, d'un chantier peut être mis à la benne parce qu'il y a pu y avoir un problème de cote, parce qu'on a commandé trop de parquets, parce qu'on a commandé trop de fenêtres, etc. Et que pendant très longtemps, on ne s'est pas posé la question de ce qu'on pouvait faire de ça, et que très souvent, ça partait peut-être en déchetterie. Vous vous êtes dit, tiens, on va créer quelque chose pour récupérer tout ça et le revendre. C'est ça l'idée d'Articonnex à la base ?
Alors oui, exactement. Le sujet initial est venu principalement d'un de mes associés qui est gérant de menuiserie et qui avait cette problématique très régulière de qu'est-ce qu'il fait de ses fins de chantier. Et que, à part le Bon Coin, qui était déjà une des solutions, il n'y avait pas forcément de service qui était rendu par quiconque sur ce sujet-là. En tout cas, pas suffisamment pour gérer des volumes intéressants. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux à détourner de la benne. Et donc, on travaille là-dessus maintenant à 3 associés, à 12 salariés et plusieurs sites avec plusieurs objectifs. Travailler avec les grands distributeurs nationaux qui ont trop de matériaux dans leur centre logistique, dans leur magasin. Il peut y avoir aussi les constructeurs, comme tu viens de citer, concernant les fins de chantier. Et certains fabricants aussi qui considèrent que leurs matériaux ne peuvent pas être vendus en l'état alors qu'ils sont encore assez bons pour avoir différents usages.
Alors comment on se lance ? Parce que finalement, vous êtes quasiment unique en France. Comme vous le disiez à l'instant, il y a des plateformes comme Le Bon Coin, on peut trouver ses restes. Il y a quelques petits acteurs aussi. Mais comment on lance une entreprise et comment surtout on va convaincre des gros que vous, le petit, vous êtes en capacité de gérer ce problème qu'ils ont ?
Alors, il faut peut-être un peu de culot, mais le sujet principal, c'est de connaître ces matériaux. Donc, on a beaucoup travaillé avec notre associé, là, Jean-Claire Lefloc, qui est gérant de menuiserie et aussi président d'une COP bois. Et donc, c'est au moins des compétences très techniques qui ont permis d'être crédibles face à des très gros. Ensuite, il faut investir dans du test et réussir à faire des tests sur des matériaux. Est-ce qu'on est capable de les vendre ? Qui on va trouver comme client ? J'ai mon troisième associé qui est Raphaël, mon frère, et qui lui a une très forte compétence tech et donc réussir à faire savoir tout ce qu'on fait. Même si on n'a pas de commerciaux, on a quand même d'autres moyens pour se faire connaître. Et évidemment, il y a ce côté écologique et ce côté un peu encore au-dessus de tout ça pour nous qui est le bon sens. C'est comment on accompagne toutes ces entreprises pour que ces matériaux dont ils ont plus besoin, on puisse leur faire retrouver un marché.
Est-ce que vous avez mesuré aujourd'hui l'impact que... Alors, l'entreprise est assez récente. On va dire que vous avez déposé des statuts aux alentours de 2018, des préfigurations à partir de 2016. Là, vous avez le vent en poupe, vous décollez. Est-ce qu'on peut déjà mesurer un petit peu l'impact que ce réemploi, que cette seconde main des éléments essentiels à la construction d'une maison, d'un appartement, peut avoir sur l'environnement ?
Alors, nous, on a des statistiques qu'on peut suivre, pas assez précisément, mais sur le tonnage. Le tonnage, c'est vraiment un volume de matériaux sur lequel qu'on vend. Et on est à peu près, sur les deux dernières années, à peu près à 2000 tonnes de matériaux issus du déstockage, du déclassé et du réemploi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est vraiment tout ce qu'on va récupérer issus de la démolition. Et on peut être assez certain que sur ces 2000, on en a vraiment 700 qui sont de manière certaine détournés de la benne. Ça veut dire vraiment que ceux qui les avaient en leurs mains les auraient mis à la benne si on n'avait pas été présent. Donc ça, c'est une statistique qui est quand même assez intéressante, sur laquelle on peut être assez fier, c'est que ces grandes économies de CO2 sur lesquelles on avance, et on va aussi, nous, de plus en plus approfondir un peu ce suivi statistique, parce que ça peut réussir à être utile aussi pour des futurs constructeurs qui veulent commencer à intégrer ces matériaux.
Alors, on parle beaucoup des circuits courts. Aujourd'hui, vous avez des sites donc ici dans le pays nantais, à Orvault, à Sainte-Luce. Vous êtes en train d'observer la zone d'Angers, Rennes, Vannes, enfin différents sites dans le Grand Ouest. Est-ce à dire que le circuit court est nécessaire pour votre activité ? C'est-à-dire qu'en gros, là où il y a un besoin, vous allez ouvrir un site ?
Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a le fait que nous, on a envie de grandir et que comme on est résident à Nantes et à Vannes, ben, on a commencé par Nantes et Vannes. Ensuite, on a nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, envie de passer du temps en famille. Donc, on commence par Rennes, par Angers et après, on ira probablement un peu plus loin parce que on nous contacte pour nous proposer des matériaux et donc, il y a un certain volume de matériaux à traiter. On a aussi cette volonté de le faire bien. Donc, on ne va pas aller trop vite. On est encore 3 associés indépendants et on a cette volonté de rester quand même assez indépendant assez longtemps. Mais il y a vraiment du volume à récupérer.
Alors Articonnect, on l'a bien vu, hein, ça va chercher le matériel qui est déstocké ou alors du réemploi quand vous allez sur un chantier, démonter qui un parquet, qui des marches en pierre, etc., qu'on peut réutiliser ensuite. En revanche, qui sont vos clients? Uniquement des artisans? Vous vous ouvrez aux particuliers? Comment ça se passe?
Alors nous, on a commencé en voulant principalement vendre entre professionnels. Donc on a un commerce de gros, on a encore la majorité de notre chiffre d'affaires qui est réalisé auprès des professionnels, mais on est ouvert aux particuliers parce qu'il y a beaucoup de bricoleurs, parce qu'il y a aussi de bon sens chez les particuliers qui veulent autant du prix que du matériau écologique. Donc c'est un bon mix. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chez les professionnels du bâtiment, on va autant travailler avec le petit artisan que des très grandes sociétés de construction de promotion. Je peux citer Bouygues, Vinci, ICAD, Eiffage, Gessina, qui sont des grands promoteurs et avec qui on expérimente justement la vente de matériaux sur lesquels il n'y a pas forcément de fiches techniques sur les faits, les garanties sont plus légères, etc. Mais ils ont un fort intérêt, eux, à utiliser ces matériaux, principalement pour améliorer leur bilan carbone, mais aussi pour faire face à différents objectifs qu'impose la réglementation environnementale 2020 sur leur chantier.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des chantiers neufs de chez Bouygues, Eiffage et compagnie peuvent utiliser du réemploi. Est-ce que c'est pas parfois aussi un peu le chat ou le chien qui se mord la queue? C'est-à-dire peut-être que vous allez récupérer du matériel déstocké sur un autre chantier de l'un de ces grands constructeurs pour leur revendre après en seconde main? Enfin, je sais pas, je pose la question naturellement. Hein.
Alors c'est possible et on l'a sûrement déjà fait, mais c'est pas forcément. Il y a tellement de chantiers que ça va pas forcément être au même endroit. Alors faut pas avoir peur aujourd'hui de se dire on va nous construire des bâtiments entièrement en réemploi. On se focalise sur certains matériaux qui peuvent être des rampes, des garde-corps, des choses qui sont pas forcément visibles, qui vont être sur des parties communes, qui vont être sur de l'extérieur et d'ailleurs qui peuvent parfois amener un certain charme sur le bâtiment ou dans les locaux de bureaux. Les locaux de bureaux sont quand même très standards en termes de construction et ça a de l'intérêt justement de poser des matériaux qui ont déjà eu une première vie.
Alors, c'est quoi les projets de développement là, dans les années à venir, dans les mois à venir?
Alors, on a une activité sur laquelle on ne communique pas beaucoup, mais on peut en profiter, qui est justement le lancement d'une nouvelle activité pour Articonnect de refabrication de matériaux à partir de matériaux de réemploi. Ça veut dire quoi? C'est quand on récupère du bois, s'il faut le refaçonner, quand on récupère un certain nombre de matériaux, s'il faut le refaire une fiche technique. On a déjà un nouveau bâtiment qui est dans le nord de Nantes sur lequel on va avancer là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des partenaires très techniques, des laboratoires comme à l'ICAM ou à l'École supérieure du bois ou des bureaux de contrôle qui nous accompagnent pour que justement les futurs poseurs de ces matériaux aient toutes les garanties là-dessus. Et ça, c'est un peu le futur du réemploi, c'est-à-dire comment on avance sur l'assurabilité de ces matériaux qui pour l'instant ne le sont pas spécialement et sur lesquels c'est d'abord le bon sens qui amène à travailler là-dessus.
Allez, dernière question pour terminer. Si on veut acheter, si on veut se fournir, on va sur quel site internet exactement?
Alors on est présent sur tout simplement notre site articonnect.com. Vous aurez tous les matériaux. On a même une section dédiée au réemploi issu de la démolition. Et dessus, vous aurez aussi notre mission, une petite vidéo qui vous permettra de comprendre qui on est, pourquoi on le fait. Et évidemment, il y a des capacités à réserver des matériaux, même si vous ne pouvez pas venir tout de suite. Et vous pourrez choisir dans quel entrepôt vous viendrez entre les deux de Nantes et celui de Saint-Luce.
Et celui de Vannes, pardon.
Et celui de Vannes. Merci beaucoup, Emmanuel Morel, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera la semaine sainte et on vous a concocté une petite émission autour de l'économie monastique. Je vous en dis pas plus. Vous découvrirez cela la semaine prochaine avec un petit décalage dans l'horaire puisque l'émission commencera à 13h après les offices de la semaine sainte sur RCF. Voilà, portez-vous toutes et tous très très bien. On se retrouve en podcast où vous voulez, quand vous voulez, sur rcf.fr et sur l'ensemble des plateformes. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF.